Bien, merci de votre présence. Donc, ce troisième cours va porter sur les polymères de coordination. Donc, le cours, vous voyez son titre, en fait, j'ai appelé ça la caverne d'Ali Baba du chimiste, parce que, comme vous allez le voir, ce sont des systèmes qui sont très, très riches au niveau de la chimie, au niveau des fonctionnalités, également très riches, je dirais, au niveau des possibilités de manipulation de ces systèmes à partir de l'échelle moléculaire pour en faire, de vrais matériaux. Alors, un polymère de coordination que vous connaissez tous, que vous avez sans doute vu, en particulier sur les tableaux, c'est le bleu de Prusse. Je ne sais pas si ça se voit très bien là, au niveau de l'image, mais en fait, les bleus de Prusse, vous voyez, de ces tableaux de Watteau et de Peter van der Werf, ce sont en fait des polymères de coordination. Ce sont un peu les premiers polymères de coordination, d'ailleurs. Et vous voyez que ces tableaux sont localisés dans une partie bien particulière de l'Allemagne. Hein, sans souci, Potsdam, c'est pratiquement, la banlieue de Berlin. Ou bien ce tableau est également dans le château de Charlottenburg, dans la région de Berlin. Et donc, bleu de Prusse, tout simplement parce que il a été découvert en fait par des coloristes allemands du nom de Diesbach et de Dippel en l'année 1704, et ça a été découvert par un pur hasard en fait. Au départ, ces coloristes cherchaient un rouge, et donc en mélangeant finalement des composés de fer avec de la potasse qui avait été polluée par en fait du sang d'animal, donc il y avait une source d'azote. C'est comme ça que finalement ils sont tombés sur un bleu ténébreux et très intéressant. En fait, au niveau de la structure, en fait, c'est simplement un composé à valence mixte entre du fer 2 et du fer 3 et des ligands cyano qui s'obtient en fait par réaction en milieu acide de composé du fer 3 et de ferrocyanure de potassium. D'ailleurs, c'est un test qui était utilisé, je dirais, en chimie qualitative pour reconnaître en fait certains cations. Au niveau de la structure, c'est une structure assez simple. Vous voyez, c'est une structure cubique où il y a alternance des fer 2 et des fer 3, et donc ces métaux, ces octaèdres de métaux sont en fait couplés par des ligandes du type cyano, le carbone allant, je dirais, se fixer sur le fer 2 et l'azote sur le fer 3. Et donc c'est un composé à valence mixte de structure cubique, et vous voyez qui a été découvert, je dirais, au début des années 1700. Alors ce qui est important de voir dans polymère de coordination, bon, d'une part il y a le mot polymère et il y a coordination. Polymère, ça veut dire que on va pouvoir étendre des réseaux au moins de ligomères, voire des réseaux infinis, via un certain mode de liaison, et en particulier les bottes de liaison qui sont mises en jeu dans ce type de chimie, ce sont des liaisons de coordination. Alors, pour résumer ce qu'est un polymère de coordination, c'est en fait un pont organique en général, un pont organique avec des pinces comme un crabe qui peuvent s'accrocher à un métal. Donc ça, ce sont ce que j'appelle des assembleurs. Forcément, pour qu'il y ait polymérisation, on doit avoir des fonctionnalités qui soient supérieures à 2. Et donc ces assembleurs sont reliés à des cations métalliques ou à des clusters oxométalliques qui jouent le rôle en fait de connecteurs métalliques. Alors évidemment, toute la chimie, la richesse de la chimie, c'est non seulement de changer les fonctions, mais également de jouer sur tous les aspects géométriques, et ça, bon, c'est ce qu'on voit, je dirais, en première année d'université. En fait, grâce au champ de ligands, on sait à contrôler, finalement, la géométrie, aussi bien des connecteurs métalliques, et au niveau du développement de la chimie du ligand et de la chimie organique du ligand, je pense que bon, on est relativement bien avancé pour pouvoir proposer pratiquement, un peu tout le genre de ligand sur mesure. Évidemment, ça demande du travail. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas du travail, c'est du travail, mais je pense qu'on a au niveau réactionnel tous les outils pour pouvoir évoluer. Alors, au niveau donc, des assembleurs des ligands, qu'est-ce que l'on trouve en fait de façon les plus communes? Bon, je les ai classés en deux catégories, les assembleurs organiques neutres, typiquement des systèmes azotés, donc du type bipyridine de ce type, vous voyez, ou bien des systèmes cyano, donc tout ça, ce sont des systèmes neutres, ou bien des assembleurs organiques de type anionique, et les plus communs, ce sont les carboxylates, mais bon, ce ne sont que deux familles, sélectionnées. Vous pouvez imaginer, tout type de molécules organiques à partir du moment où l'une des extrémités peut avoir une affinité pour un cation métallique. Alors, Bien entendu, quels sont en fait les connecteurs et les assembleurs de base? Eh bien, je reviendrai un petit peu sur l'idée centrale, c'est-à-dire que le connecteur peut être un cation métallique directement lié aux ligandes ou aux composés organiques qui vont en fait assurer la polymérisation par coordination. Et forcément, là, on a un choix direct de la géométrie qui va s'appuyer sur la nature du métal, la force du champ de ligand, la nature des ligandes. Mais ces connecteurs métalliques peuvent être également des systèmes un tout petit peu plus complexes, typiquement des clusters oxymétalliques qui sont déjà issus, vous le voyez, d'une première réaction d'agrégation de condensation, un trimère du zinc ou du chrome ou un tétramère du zinc. Et donc la première condensation résulte d'une réaction d'hydrolyse condensation aqueuse ou organique. Vous voyez ce que vous voyez ici au centre, c'est un pont oxygène qui assure la première condensation. Et c'est ensuite cet objet qui va servir en fait de connecteur et qui va permettre de faire un réseau bi- ou tridimensionnel. Alors, prenons un exemple très très simple. Comment on peut construire un polymère de coordination? Je vais utiliser un complexe, un dimère du cuivre, vous voyez, qui lui est entouré en fait de groupements de type carboxylate qui sont monofonctionnels. Donc ça veut dire que là, je m'arrête au niveau moléculaire et je vous fais remarquer que la nature en fait des liaisons chimiques développées par le carboxylate et l'eau vis-à-vis du centre de cuivre ne sont pas les mêmes. Hein, donc globalement ici, vous avez une interaction, je dirais, L, donc plutôt ionocovalente, et ici vous avez une liaison acide-base de Lewis. Alors la première chose, je veux faire un polymère, donc je dois augmenter la fonctionnalité. Eh bien, j'enlève finalement ces ligands carboxylates par des ligands assembleurs de fonctionnalité au moins égale à 2. Je prends un dicarboxylate, donc l'acide téréphtalique par exemple, et par réaction, vous voyez, j'obtiens un réseau où je vais connecter finalement via ces ponts téréphtalates mes différents dimères du cuivre. Alors là, je m'arrête à un réseau bidimensionnel. Bien évidemment, il me reste en fait au niveau réactif ces deux molécules d'eau que je peux utiliser. Et il ne faut pas oublier que dans la plupart de la formation de ces réseaux, eh bien, on voit la structure globale de l'ensemble, mais il y a toujours quelque chose dans la cavité en général. Il y a un invité, il y a un anion, il y a du solvant. Donc c'est important pour la suite. Alors, je passe donc à l'étape du dessus. Je vais utiliser finalement la labilité des molécules d'eau et donc je vais donc engager à la place des molécules d'eau tout simplement des ligands L, donc les ligands azotés, mais qui vont être à nouveau difonctionnels. Et ça va me permettre, vous voyez, de faire un réseau tridimensionnel où on retrouve finalement en rouge, de façon très simple et symbolisée, les groupements diacides carboxylates. Et ici, vous retrouvez finalement le ligand difonctionnel porteur d'azote, qui dans ce cas-là est la triéthylène diamine que l'on appelle plus communément le DAPCO. Donc en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça c'est une représentation du système, mais il y a toujours quelque chose dans la cavité. Alors pour y voir un petit peu plus clair, j'ai repris en fait des images en fait en modèle compact et vous voyez très bien, c'est exactement la même structure. Vous voyez très bien ici, ce sont les groupements carboxylates qui assure en fait le réseau bidimensionnel. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est ça représente un des azotes de la triéthylène diamine. L'autre est pris dans la liaison, elle est cachée en fait par ces atomes. Et donc ce que vous voyez en vert, c'est les dimères de cuivre. Donc ça, c'est une vue. Si vous tournez de 90 degrés, eh bien vous voyez que ces systèmes présentent en fait des canaux qui sont très très intéressants, comme je vais vous le montrer plus tard. Mais a priori, la synthèse d'origine vous conduit à la formation de systèmes avec des canaux qui sont pleins avec des ligands, enfin du solvant à l'intérieur ou des ions. Alors, le domaine des polymères de coordination, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a énormément évolué. Si on regarde un petit peu les publications, brevets ou autres, sous le nom, enfin, avec l'appellation polymère de coordination ou une appellation un peu plus moderne, qui est Metal Organic Framework, je vais en reparler, eh bien, on voit que ça commence un peu avant les années 85, et puis il y a un petit bump vers 95, et puis hop, là, il y a une augmentée très très importante en fait du nombre de publications dans le domaine. Alors j'ai été regarder un petit peu la littérature en fait dans les années antérieures et le mot polymère de coordination, c'est pas quelque chose de nouveau pour être très clair. Si on regarde dans les années 70, on trouve des travaux de Carrère, de Manners et collègues, qui, en fait, eux, regardaient l'aspect vraiment polymère de coordination, c'est-à-dire que regardaient finalement des ensembles de cations associés, vous voyez, par des ligands bifonctionnels ou des systèmes polyféroscéniques, mais à nouveau, leur regard de l'époque, c'était plus... Je choisis un métal pour une propriété bien particulière et ensuite, eh bien, je le couple en fait à un certain type de ligand pour obtenir, dans ce cas-là, des oligomères. Et un grand nombre des travaux qui ont été publiés, au moins à cette époque-là, en fait, ce sont des systèmes où il y a des données qui sont spectroscopiques, mais il n'y a pas énormément encore de structures par diffraction des rayons X. Mais c'est un thème qui existait, je dirais, dans les années 70. Alors ensuite... Le second exemple polymère de coordination concerne en fait tout le travail qui a été fait par les collègues de coordination qui se sont intéressés au magnétisme en particulier. Et donc, il y aura un exposé qui va suivre le cours de Talal Mala, donc, qui est un spécialiste du magnétisme moléculaire. En fait, l'idée à l'époque, c'était justement de regarder de façon très, très fondamentale comment interagissaient des ions magnétiques quand ils étaient couplés via des ligands organiques. Et donc, les modèles les plus simples qui ont été développés avant ces dates-là, ce sont essentiellement des modèles de dimères, avec, on regardait les aspects recouvrement orbitalaire, orthogonal ou pas. Et puis, la logique était de se dire, ben, on va aller vers des ensembles un peu plus complexes, plus proches des solides, où on va commencer à oligomériser les systèmes. Et vous voyez, ça, c'est un exemple de chaîne bimétallique. Hein, c'est le groupe d'Orsay, donc avec Olivier Kahn, Michel Verdaguer, Youpei et d'autres, qui ont travaillé sur ces systèmes. Et là, en fait, le choix du métal s'est fait en fonction d'une fonctionnalité. C'est-à-dire on va chercher un métal parce qu'il a une propriété magnétique. Tous ces systèmes-là sont porteurs de spin. Et ensuite, on fait le choix du ligand, vous voyez, avec un ligand avec un métal et un ligand avec un caractère beaucoup plus oxophile. De cette façon-là, le cuivre, lui, qui aime bien s'entourer d'azote, je dirais, ça permet de partitionner en fait, la chaîne manganèse, cuivre, manganèse, etc. Donc ça, ce sont les travaux que je classerai j'étiqueterais comme les premiers polymères de coordination. Et vous voyez, ça a démarré dans les années 70. Alors, il y a eu un premier choc très intéressant au niveau de la polymérisation des polymères de coordination. Ce choc est associé à tous les travaux qui ont été faits, vous voyez, dans les années 88-90 par Richard Robson. Alors, d'après ce que j'ai lu, bon, c'était quelqu'un qui était un très bon chimiste de coordination, mais également qui était quelqu'un qui était passionné par la cristallographie et par tout ce qui était représentation dans l'espace. Et donc, Richard Robson a fait un travail énorme, en fait, justement, en regardant tous les aspects topologiques, en fait, et d'association de métaux et de ligandes variées, multifonctionnelles, vous voyez, comme un tétracyanophénylène. Donc, ça va donner ce genre d'édifice. Vous voyez, un édifice où on voit ici les différents métaux en fait, associés par ce ligand tétrapodique. Ici, forcément, vous voyez tous que c'est un carbone sp3, donc forcément, ça génère des tétraèdres. Et donc, ça va donner en fait, une chimie de réseau réfléchie, je dirais, calculée, pour former, par exemple, des structures adamantanes. Alors bon, Richard Robson a travaillé pendant des années sur justement cet aspect Lego, construction, en utilisant les métaux avec les bonnes fonctionnalités, les bonnes coordinances, en jouant énormément sur la chimie organique du ligand. Vous voyez, ça, c'est typiquement une structure qui est obtenue à partir d'un sel de cadmium et du benzène hexaimidazole. Vous voyez, ici, on voit bien la connectique, et on voit bien la formation du réseau, et on sent bien qu'entre cette étape-là et celle-ci, il y a toute une réflexion cristallochimique qui permet d'établir ce genre de composé. Alors, un autre exemple sur lequel je passerai assez vite, hein, donc avec le bipyridyl triazine, avec du cuivre 1, et bien, voyez, donc simplement, vous utilisez comme assembleur les azotes, en fait, qui sont externes à cette molécule, qui vont se connecter à un centre métallique qui est du cuivre 1 pour obtenir ce réseau-là. Mais bon, vous voyez bien qu'il y a plein de vides. Bon, ça, j'ai découpé une partie du réseau. La réalité est la suivante. C'est que quand vous faites le matériau, vous avez deux réseaux interpénétrés l'un dans l'autre. Hein. La nature a horreur du vide, et en général, soit vous interpénétrez des réseaux, soit dans la porosité, vous vous retrouvez finalement avec une molécule invitée. Alors, au niveau donc, de la chimie réticulaire, donc, je voudrais signaler donc, les travaux importants qui ont été faits par Robson dans les années... donc ça, c'est une revue, mais dans les années 90. Et donc, on peut à la fois construire des édifices, des polymères de coordination à la fois esthétiques, bon, c'est un véritable jeu, un véritable Lego, vous voyez, avec des systèmes monodimensionnels, bidimensionnels, tridimensionnels, des systèmes en chaîne, des systèmes interpénétrés, mais ce sont des structures, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours quelque chose dans la cavité. Et que la plupart des études qui ont été faites à l'époque... Ce que les gens recherchaient, c'était essentiellement la fonctionnalité du métal, magnétisme, valence mixte, et le ligand servait à faire un couplage, à développer le système. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors que la cavité elle-même, elle n'était pas à l'époque très utilisée. Alors, ce qui a mis un petit peu, je dirais, le changement de pente dans l'évolution en fait, de la production et des publications, vous voyez, c'est fait dans les années 95 à 2000. En particulier, c'était la recherche de nouvelles fonctionnalités et propriétés dans ces systèmes de coordination, en particulier avec des chercheurs qui avaient soit qui venaient de la chimie du solide, soit qui avaient un historique scientifique dans la chimie des zéolithes, par exemple. Donc la première chose, le premier réflexe, c'est de se dire bon, bah, on a des cavités, on va essayer de les utiliser avec toutes les propriétés que vous pouvez imaginer derrière. Alors, au niveau donc, de ces systèmes-là, eh bien, il paraissait intéressant d'utiliser ces matériaux hybrides poreux cristallisés. Ça a commencé au début des années 90. Hein, donc, bien évidemment, suite aux travaux de Robson, eh ben, on savait déjà jouer sur les aspects fonctionnalité et dimensionnalité des réseaux. Hein, et en particulier, on avait a priori la possibilité de développer des matériaux poreux de taille contrôlée, avec des formes, vous avez vu, très variées. Mais le problème était, il faut d'abord libérer les pores hein, pour pouvoir en faire des vrais matériaux poreux. Et en plus, avec tout le potentiel et toute la force et la connaissance des chimistes de coordination, eh bien, on savait que si on arrivait à faire ça, eh bien, on arriverait à faire ceci. C'est-à-dire, si on arrivait à libérer proprement les pores, eh bien, on arriverait également à jouer sur la chimie, à jouer sur la fonctionnalisation de la surface interne et externe. Alors, bon, par exemple, pour aller un peu rapidement, on peut utiliser une source de métal et puis avoir le ligand fonctionnel, pas un simple terephthalate. Hein, ça peut être quelque chose de voisin, je dirais. Vous voyez, une fonction amine, mais ça change tout, parce que là, on va pouvoir commencer à faire de la chimie ici, une chimie par un greffage covalent, de façon diverse, ou bien une chimie simplement par une modification de coordination sur le site, dans un deuxième temps, hein, je pourrais vous montrer un exemple, et puis également une modification par greffage suivie, en fait, d'une coordination. Donc, en fait, après tout ça, je dis pas que c'est simple, hein, c'est intéressant, mais ça fait partie de ce que les chimistes de coordination connaissent et savent faire le mieux du monde. Alors, passer à des matériaux hybrides micro-mésoporeux cristallisés, eh bien, ce que les gens recherchaient très clairement, ben, c'était toutes les propriétés des poreux traditionnels, des zéolithes ou autres, en particulier l'absorption, membrane, la séparation, donc les catalyseurs, les capteurs, etc. Mais bon, une des difficultés, c'est que d'une part, il fallait trouver des processus d'activation de la porosité qui ne soient pas destructifs. Il fallait des réseaux stables vis-à-vis de l'humidité, de la température. Ça permettrait normalement d'obtenir des larges pores, vous voyez, avec surface spécifique intéressante, une porosité qui va être ajustable avec la taille des fenêtres et l'accès des réactifs ou adsorbants va être possible. Mais à nouveau, c'est soumis à ce genre de conditions. Et donc, en fait, après, on va pouvoir jouer sur les sites d'absorption qui vont être modifiables, sélectifs ou autres. Et, je dirais, dernière demande d'un pseudo-cadrier des recharges, mais là, ce n'est plus forcément scientifique, c'est que les systèmes soient faits dans des conditions avec des bons rendements, etc. Alors, ce qui a énormément, changé finalement le profil du paysage, c'est deux choses. D'une part, en fait, l'utilisation un peu plus systématique par les chimistes des synthèses, non plus de chimie douce, température ambiante, mais des synthèses, je dirais, hydrothermales ou solvothermales. Donc, ça permet déjà de monter en température et ça permet donc de peut-être de mieux cristalliser les systèmes. Hein. Et en particulier, si on regarde un peu les évolutions, en fait, du polymère de coordination ou au système microporeux ou mésoporeux avec des propriétés intéressantes, eh bien on voit que globalement, il y a trois générations de systèmes. Une génération, je dirais, avant 1995. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent que finalement, la première génération, on essaye d'enlever les espèces invitées pour libérer cette porosité, mais on se retrouve très souvent avec partiellement ou totalement des problèmes de stabilité du réseau qui est détruit. Puis une deuxième génération, et ça démarre, je dirais, globalement dans les années 95, où on va pouvoir on va trouver des systèmes suffisamment robustes pour enlever les espèces invitées, justement libérer cette porosité, cette micro- et nanoporosité qui va être intéressante. Et puis, à partir des années 2000, on va au-delà, on trouve la troisième génération de systèmes dans lesquels non seulement on peut enlever en fait les invités, mais il y a une sensibilité du réseau à l'échange des invités. Il y a une adaptabilité en fait du réseau, une flexibilité du réseau, et ça, ce sont des travaux plus récents. Alors, au niveau donc des premières expériences et celles qui ont permis finalement de consolider des polymères de coordination cristallins et suffisamment stables pour qu'on puisse retirer les invités qui sont dans les cavités, eh bien, essentiellement, c'est l'utilisation de pontants rigides, beaucoup d'anioniques et de neutres du type carboxylate, donc le plus simple dicarboxylate, et également des polycarboxylates, des systèmes à base d'imidazole ou de pyridine. Voilà les ligands que l'on trouve, avec des fonctions au minimum de deux, puisqu'on veut faire des réseaux, ou des systèmes trifonctionnels, comme l'acide benzène tricarboxylique, ou des ligands plus grands, ou bien également des systèmes avec quatre fonctions et plus. Donc le passage, d'une part, à des ligands, je dirais, polyfonctionnels et relativement rigides au début. Je dirais qu'au début, il y a énormément de travaux qui se basent en fait sur l'acide téréphtalique et puis des systèmes à base de bipyridine. Alors au niveau donc des équipes, il y a énormément d'équipes qui ont contribué, mais il y a trois équipes qui, de mon point de vue, ont contribué très fortement au développement finalement de cette chimie des matériaux cristallins poreux et de ces polymères de coordination à porosité contrôlée. En fait, il y a une équipe au Japon dirigée par Kitagawa, une équipe en France qui était dirigée donc par Gérard Ferré. En ce moment, c'est Christian Serre qui a repris l'animation de cette équipe, et une équipe à UCLA, donc aux États-Unis, dirigée par Omar Yagi. Alors, en fait, finalement, ce sont des travaux où il y a des recouvrements, forcément, mais il y a de nettes différences. En fait, l'équipe japonaise Kitagawa s'est surtout intéressée au système divalent, et en particulier le cuivre, et avec énormément de recherches sur les couplages au niveau des ligands entre les carboxyles et les systèmes azotés. Et donc, lui a appelé ça les Porous Coordination Polymers, PCP, donc. Au niveau donc de UCLA, beaucoup de travaux, à nouveau sur des divalents, en particulier du zinc, et énormément de travail qui a été fait, en fait à partir donc, de ces briques, ces tétramères de zinc, qui sont, vous voyez, condensées grâce à un pont Oxo. Il a appelé ça les Metal Organic Frameworks. Et en général, je dirais que la plupart des travaux de départ, c'est l'utilisation de ces briques couplé finalement à des composés carboxylates de fonctionnalité supérieure à 2. Et puis plus récemment, il a étendu, vous allez le voir, à d'autres types de ligands. Et puis au niveau non français, il y a essentiellement, je vous disais, les travaux qui ont été faits à l'Institut Lavoisier, où là, cette fois-ci, ce qui différencie les travaux de l'Institut Lavoisier, c'est que d'une part, ce n'est pas des divalents, ni du cuivre, ni du zinc, et plutôt un peu la classification périodique centrale, avec du chrome, du fer, du titane, des terres rares, donc quelque chose de plus ouvert, et puis un impact assez important sur tout l'aspect mécanistique, mécanisme de formation de ces systèmes grâce à des méthodes de suivi in situ, et également des caractérisations associées à de la modélisation, et également une recherche en fait mécanistique et d'interprétation sur tous les phénomènes d'adsorption. Alors, je vais passer en revue très rapidement les travaux des différentes équipes. Donc, du côté de Versailles, il y a eu ces fameux matériaux 1000, c'était un matériau de l'Institut Lavoisier, qui ont des propriétés absolument extraordinaires avec très, très grandes surfaces spécifiques, vous voyez, qui sont construits avec un connecteur qui est un petit trimère de chrome ou de fer avec un pont mu3 oxo au centre, et par échange en fait des ligands carboxylates avec un système bifonctionnel, et bien on va faire des caches, des super tétraèdes qui vont à nouveau s'associer pour former des caches plus grandes, voyez, avec des ports de 30 angstrom ou de 29 à 34 angstrom, donc des super caches avec donc une fois, et ces systèmes peuvent être stables, on peut enlever finalement les solvants et ça peut permettre de libérer de très grandes surfaces spécifiques, et ce sont des matériaux qui sont intéressants en tant qu'adsorbeurs, catalyseurs et vecteurs. Et en particulier, si je prends des données, je dirais qui est un peu frappant, un mètre cube de ce matériau est capable de stocker près de 400 mètres cubes de gaz carbonique à 25 degrés. Les meilleurs poreux à l'heure actuelle, c'était plutôt aux alentours de 200. Donc je vais revenir, je vais remettre des bémols sur les aspects d'absorption dans ces matériaux, mais ce sont quand même des matériaux qui sont exceptionnels. Alors, en changeant, voyez, en gardant la même brique de départ, c'est-à-dire un trimère du chrome, pourquoi le trimère de chrome a été aussi étudié ? Parce qu'en fait, le chrome 3, vous le savez tous, c'est quand même quelque chose de très stable. Et donc un trimère de chrome associé en fait à des ligands benzène tricarboxylate, ça permet en fait à nouveau, tout en conservant la structure de trimère, de former en fait d'autres types de matériaux poreux avec des ouvertures et des connexions qui vont être différentes. À nouveau avec des surfaces, vous voyez, qui sont loin d'être négligeables, de l'ordre de 2700 m² par gramme. Alors évidemment, on peut jouer également sur la nature du ligand, sur sa fonctionnalité, mais également sur la taille du ligand. Et en particulier, ce que je souhaiterais citer, c'est un travail assez intéressant qui a montré qu'en utilisant ces trimères de chrome, eh bien, en changeant la nature du ligand, pour certains ligands, finalement, on obtenait des matériaux microporeux, mais qui ont une caractéristique particulière. Justement, ça fait partie de ce que j'ai décrit comme la troisième génération. En fait, le matériau obtenu par synthèse directe, ce que j'appelle le brut, en fait, présente une certaine surface spécifique. On peut enlever en fait le solvant ou l'invité de ce matériau pour obtenir un matériau totalement sec, et ensuite soumis à l'adsorption de différentes molécules, eh bien on va augmenter en fait la taille des cavités, la maille du système. Le système va gonfler sans pour autant perturber, je dirais, la structure du matériau. Et évidemment, le volume de la maille va augmenter jusqu'à 300% dans certains cas, mais ça va être dépendant en fait de la fonction, de la polarité de l'invité, de l'adsorbat, je dirais, ou de l'acidobasicité de l'adsorbat. Mais ce phénomène est réversible, et ça, ce sont des systèmes qui présentent ce phénomène de gonflement-dégonflement, et donc qui ajustent finalement leur capacité de réception à la quantité, à la nature de l'adsorbat. Alors, dans la même série donc, des composés de type 1000, je vous ai parlé donc, des systèmes qui sont construits à partir d'un trimère. Il y a les 1053 qui sont, eux, construits à partir, vous voyez, d'un trimère qui n'est pas fermé, mais qui est un trimère linéaire. À nouveau, en associant cette brique de départ, ce connecteur, à un assembleur simple, un téréphtalate, on obtient, vous voyez, d'autres types de microporeux avec des pores largement ouverts, et on peut jouer en fait sur la chimie en fait de l'aspect de la construction, mais également, vous voyez, vu qu'on peut également jouer sur la chimie du connecteur, eh bien, on va pouvoir obtenir des connecteurs qui vont être plus ou moins hydrophiles, plus ou moins hydrophobes, et obtenir des phénomènes d'absorption qui vont être plus ou moins sélectifs. Par exemple, le 1053 est nettement un meilleur absorbeur de CO2 que du méthane, et vous voyez des phénomènes un petit peu bizarres dans lesquels je ne rentrerai pas dans les détails, sauf si vous me posez des questions, mais qui montrent que finalement, il y a des effets très particuliers au moment de l'adsorption, des effets de réseau qui sont très particuliers. Alors, l'intérêt en fait de ces matériaux 1000 indépendamment de l'adsorption, eh bien, c'est que justement, ils sont réalisés avec des cations qui sont biocompatibles, et en particulier du fer. Et donc, en fait, il y a toute une série de travaux où, vous voyez, au lieu de partir du trimère métallique à base de chrome, on utilise en fait le trimère métallique à base de fer avec un acide trifonctionnel, un acide benzène trifonctionnel, pour obtenir des 1100, ce que je vous ai montré dans un des transparents précédents, mais qui sont avec un système qui est biocompatible. À partir du moment où on sait faire des systèmes biocompatibles et que l'on sait descendre en fait la taille des objets dans un régime, je dirais, submicronique, voire nanométrique, ça veut dire que ces matériaux-là peuvent être éventuellement des systèmes intéressants pour le secteur médical. Et en particulier, bon, ils ont été, la porosité étant très très grande, ils peuvent accueillir de grandes quantités, par exemple, de médicaments. Et en fait, ensuite, il y a un relargage, je dirais, qui est différé dans le temps. Au lieu d'avoir en fait l'essentiel du médicament qui est délivré en quelques heures, eh bien, on a un relargage qui peut durer plusieurs jours avec un système à base de fer qui est biocompatible. Alors, du fer, qu'est-ce que ça veut dire ? Fer 2, fer 3, mais là, c'est du fer 3, c'est stable. Du fer 3, ça veut dire qu'il y a du spin, il y a du magnétisme. Et donc, forcément, on peut, en utilisant toujours ces trimères de fer, bon, là, c'est simplement une illustration avec un autre type de ligand carboxylate dysfonctionnel, mais je dirais qu'au niveau conceptuel, c'est la même chose. Eh bien, on peut utiliser ces matériaux-là, vous voyez, de faire une échelle nanométrique, pour faire de l'imagerie médicale, en fait, en jouant sur le contraste en RMNT2, ça peut servir d'agent de contraste. Alors, on peut également, bien entendu, fonctionnaliser les groupements organiques par des fonctions amino. C'est ce que je vous disais. Donc, toute la malléabilité, la malléabilité en fait, de la chimie de coordination. Et là, on peut par exemple, venir greffer le médicament. Dans ce cas-là, c'est du cisplatine via une réaction d'amidification simple. Et donc, encore jouer sur les équilibres en fait, de dissociation de ce type de liaison pour moduler finalement les temps de relargage d'un médicament dans l'organisme. Alors, du côté donc, de UCLA, d'Omar Yagi, alors, il y a de superbes travaux qui ont été faits, je vous ai dit, à partir donc, d'un tétramère de zinc à nouveau associé par des groupements polyfonctionnels, au départ essentiellement des polycarboxylates. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette brique de base est conservée et que pratiquement on peut changer la nature de l'acide correspondant et sa fonctionnalité. On obtient en fait des édifices avec des porosités parfaitement calibrées et contrôlées, qui vont dépendre pour l'essentiel de la nature du ligand que vous allez rajouter. Alors donc le premier en fait, voyez, le premier système microporeux stable qui a été publié dans les années fin des années 90, vous voyez, c'est le fameux MOF5 qui est un travail qui est très très connu, très cité, qui utilise finalement ce genre de clusters connectés simplement avec des ligands terephthalates. Et ce que vous voyez en jaune au centre, eh ben, c'est la cavité, c'est la poche qui, si elle est libérée, et c'est le cas, elle peut être accessible et créer des surfaces très élevées de l'ordre de 2900 m² par gramme. Alors évidemment, ben, ensuite on peut jouer avec la chimie des ligandes, vous voyez, pour faire varier finalement les fonctionnalités. On peut également aller vers des assembleurs, j'irais, de plus en plus grands pour créer en fait des trous plus larges et donc jouer un petit peu sur les surfaces spécifiques. Alors évidemment, il faut faire attention à une petite chose, c'est que forcément, si on joue sur des assembleurs trop grands, eh ben, on va fragiliser un petit peu le réseau, mais en fait, il y a quand même un certain nombre de systèmes, vous voyez, avec des assembleurs plus grands, type MOF 177, qui tiennent finalement au niveau structural et aux sollicitations. En particulier, bon, ben, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par ce groupe sur tout ce qui est adsorption. Là, ça vous montre en fait l'adsorption d'azote, toute simple, hein, je dirais, d'un MOF 5, le premier qui a été trouvé par l'équipe, jusqu'au MOF 177, qui reste stable avec des capacités d'adsorption qui sont remarquables. Donc énormément de travaux sur l'adsorption, évidemment, adsorption, tous les aspects environnementaux, énergie, il y a eu des moyens qui ont été mis là-dedans, donc forcément il y a eu une réponse du scientifique en trouvant des matériaux avec des propriétés exceptionnelles. En fait, donc ces systèmes-là sont décrits comme des éponges cristallines, vous voyez, avec des surfaces très très grandes, et en particulier, juste pour prendre un exemple, hein, un conteneur rempli de MOF 177 peut stocker autant que 9 conteneurs vides d'un gaz type CO2. Donc, alors énormément, les gaz d'intérêt, hein, ce sont essentiellement le méthane, le CO2, l'hydrogène, stockage de l'hydrogène, bien entendu. Vous voyez que derrière cette problématique, il y a toutes les problématiques associées à l'énergie et à l'environnement. Alors, et bien entendu, à nouveau, ben, tous ces systèmes-là, la richesse de la chimie de coordination permet de les fonctionnaliser un peu sur mesure. Au lieu de partir d'un acide dicarboxylique simple, eh bien, je vais partir de l'amino-dicarboxylique. Ça veut dire que je vais avoir une fonction qui va être réactive, qui va attendre que je la sollicite. Donc je la sollicite avec une réaction chimique assez classique maintenant pour former un groupe N3. Et puis, qui dit groupe triazole, tout de suite, pour un chimiste de coordination, un chimiste organicien, ça veut dire chimie clic. Et donc, ça veut dire, eh ben, je vais pouvoir aller modifier mon système avec un groupement alcyne et puis cliquer, en fait, à peu près divers types de fonctions. Alors ça peut être intéressant parce que finalement, indépendamment de libérer une porosité, eh bien, je vais pouvoir jouer sur la chimie du mur, et si je joue sur la chimie du mur, eh bien, je vais décaler les propriétés d'absorption, forcément. Et donc ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, bon, ça c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Yagi, donc en passant de l'amino à des systèmes simplement par des réactions de couplage, vous voyez, avec des systèmes plus ou moins aromatiques, ce qui est vu dans cet exemple, hein, c'est que ça, c'est des isothermes d'absorption d'hydrogène, et bien très clairement, le fait de rendre encore plus aromatique, finalement, le ligand assembleur, eh bien, ça permet de décaler fortement l'absorption, en particulier de l'hydrogène à faible pression. Donc, en fait, c'était juste un exemple, mais vous pouvez imaginer tout l'arsenal d'idées qui peuvent être développées suite à la modification de ces ligands. Alors, on parlait de microporeux. Alors, parler de microporeux sans parler de zéolithes, de mon point de vue, c'est une aberration. Et justement, les collègues qui ont travaillé sur les polymères de coordination ont eu ce que j'appelle la pensée zéolithique. Alors, la pensée zéolithique, c'est quoi ? On sait que les zéolithes, ce sont des adsorbeurs absolument remarquables, mais au niveau structural, on sait que d'une part, ce sont tous des aluminosiligates avec des cations qui sont tous en tétraèdre et avec des valeurs angulaires, vous voyez, qui sont entre 145 et 150 degrés, ça dépend des zéolithes, et ça génère des systèmes de porosité parfaitement contrôlés, hein, donc c'est ce que vous connaissez sous le nom de tamis moléculaire, et donc avec des cages bien, bien définies et des porosités en général Angström nanométrique, hein, bien, et donc avec des structures qui ont, il y a à peu près 150 zéolithes de synthèse à l'heure actuelle et puis une cinquantaine naturelles, hein, avec des structures différentes. Et donc ça, ce sont un peu la structure type la plus connue, je dirais, c'est la structure sodalite. Hein, et donc vous avez ces enchaînements en fait de tétraèdes de silicium et d'aluminium avec ces angles. Ben, l'idée, c'était de se dire, eh bien, si je choisis des cations qui ont une forte préférence pour le tétraèdre et des ligandes qui ont en fait des connecteurs organiques cette fois-ci qui présentent en fait ces valeurs angulaires, je devrais trouver quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est ce qu'a fait l'équipe de Yagi en allant chercher les bases, les systèmes de type imidazole, très intéressants, avec des métaux divalents, essentiellement beaucoup de travaux autour du zinc. Et donc ça permet, vous voyez, vous avez votre pont, vous avez votre tétraèdre, et donc vous allez pouvoir obtenir finalement des hybrides cristallins de type zéolithique, ce qu'on appelle les ZIF, Zeolithic Imidazolate Frameworks, donc différents. Là, je vous en montre deux ou trois, mais il y en a une bonne trentaine qui ont été publiées. Alors évidemment, à nouveau, eh bien, on va pouvoir jouer sur la chimie du groupement, vous voyez, pour moduler les propriétés, hein, avec différents types de ligands organiques. Bon, je ne rentre pas dans le détail des structures, mais ce sont des structures connues en zéolithes, mais cette fois-ci, ce sont des systèmes qui sont hybridés. Alors, avec des pores, vous voyez, qui restent petits, hein, bon, on dépasse en fait les pores classiques des zéolithes grâce aux ligands, mais ça reste quand même des pores qui restent dans le domaine microporeux. Alors, ce qui est très intéressant dans ces systèmes-là, c'est qu'ils présentent une stabilité thermique relativement exceptionnelle par rapport à d'autres systèmes. Ce qui est reporté, c'est que sous azote, en fait, ça tient un peu plus de 500 degrés. Et également, chimiquement, dans des milieux acides ou basiques, ça tient relativement bien. Donc ça, c'est intéressant au niveau matériaux de travailler avec ces systèmes. Alors, malléabilité en fait, de la chimie de coordination, encore un exemple, cette fois-ci avec ces hybrides zéolithiques, hein, où on va pouvoir, vous voyez, via la première synthèse, utiliser un imidazole avec une fonction réactive, un carbonyle, et puis ensuite faire une réaction de réduction pour aller à l'hydroxyle, et puis ensuite, vous imaginez ce que vous voulez, ou bien une réaction d'imination, vous voyez, pour former cette liaison imine, et ensuite aller vers d'autres types de systèmes. Donc, cette modularité est exceptionnelle et je pense que c'est un des plus grands intérêts de cette chimie. Alors, par exemple, je voudrais vous montrer juste ce dernier transparent sur les IF. En fait, en utilisant finalement, vous voyez, des imidazolates avec des fonctionnalités différentes, bon, d'une part, bon, on peut aller jusqu'à l'élaboration de matériaux sous forme de membrane, hein, ça c'est juste une illustration qui vous montre que... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en modulant finalement le caractère hydrophile, hydrophobe dans ce cas-là du mur, eh bien, on va moduler en fait des propriétés de perméance, par exemple, dans un mélange. Et vous voyez que ce genre de composé, ZIF7, présente en fait à une perméance très intéressante à l'hydrogène par rapport à tous ces gaz-là. Et bon, en fait, les points que vous voyez là, c'est dans les mélanges H2CO2, H2N2, H2CH4. Hein. En plus, je vous ai dit, donc facteur de séparation important et puis stabilité jusqu'à 500 degrés. Et donc ça, deuxième intérêt que j'ai oublié de vous dire et qui est important, c'est que le fait qu'on peut moduler le caractère hydrophile-hydrophobe, eh bien, en partant sur des systèmes hydrophobes, eh bien, on va stabiliser les systèmes à l'eau. Et l'eau, c'est souvent l'un des problèmes et l'un des dangers, l'un des compétiteurs finalement dans le système. Alors au niveau donc des microporeux hybrides cristallisés, beaucoup de travaux en fait sur le stockage des gaz et en particulier le stockage de l'hydrogène. Donc en fait pour l'instant la plupart de ces systèmes commencent à avoir des réponses au niveau donc densité volumétrique ou gravimétrique d'absorption d'hydrogène qui commencent à répondre finalement au cahier des charges de la DOE américaine. Donc on commence à avoir des systèmes qui commencent à être intéressants. Évidemment, l'un des problèmes, c'est que l'énergie de liaison de l'hydrogène dans la plupart de ces composés-là, elle est, vous voyez, de l'ordre de 5 kJ par mol, ce qui veut dire que pour stocker, il faut refroidir à 77 degrés, et on utilise peu d'énergie pour le libérer. Alors, si on voulait stocker de l'hydrogène à 20 degrés et sous des pressions un peu plus raisonnables, ça veut dire qu'il faudrait arriver à trouver une affinité, une énergie de liaison qui soit de l'ordre de 15 kJ. Et c'est à ça qu'actuellement un certain nombre d'équipes s'occupe, je dirais. En particulier, on peut jouer, évidemment, pour avoir une interaction plus forte, jouer sur la taille des pores en essayant de faire les pores plus petits. On peut jouer, comme je vous l'ai montré, sur la fonctionnalisation du ligand, la nature du métal aussi. Il y a des métaux qui sont plus propices, je dirais, à interagir avec l'hydrogène. Ou bien également, on peut utiliser des sites de coordination insaturés. Je vous en ai montré au départ avec l'eau, mais donc on peut enlever l'eau et avoir augmenté ainsi l'affinité en fait, de l'adsorbat pour la cavité. Alors, matériaux hybrides pour cristalliser, beaucoup de promesses. Avec ces matériaux-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont les matériaux, je dirais, les plus utilisés ou les plus testés. Mais au-delà des effets d'annonce, et je pense que ça va être ce qui va se passer dans les prochaines années, hein, et il y a de grandes bagarres, forcément. Moi, j'ai réussi à mettre tant d'hydrogène, et toi, tu en as mis combien ? Vous comprenez bien le genre de discussions qui peuvent intéresser les scientifiques. Mais au-delà de ces grandes bagarres, un point qui me paraît important, c'est justement qu'il y a une nécessité de test normalité effectuée dans une certaine neutralité. Peut-être que l'industriel pourrait faire ça. Hein. Alors, avec des processus d'activation de la porosité qui doivent être optimisés, on ne parle pas forcément du même objet, même si c'est la même structure, à partir du moment où on a des objets de taille et de morphologie qui vont être différents vis-à-vis de ces propriétés-là. Les grandes surfaces spécifiques, c'est bien, mais il faut travailler sur la même chose. Et également, bon, ben, il y a toutes les conditions de température, de pression. Donc, en fait, il faut un peu normaliser toute cette problématique. Et je pense que les résultats arriveront. Alors, je vous ai parlé d'un troisième équipe, l'équipe donc, de Kitagawa. Et je vous ai dit que c'était une équipe qui faisait un excellent travail également. Donc, je ne peux pas non plus, en peu de temps, vous citer l'ensemble des travaux. Mais je voudrais simplement appuyer en fait, et vous montrer un ou deux exemples sur un travail relativement récent qui a été fait par l'équipe. Enfin, l'idée, c'est d'utiliser finalement cet espace confiné, ces canaux bien calibrés en longueur, en taille, en forme, avec des fonctionnalités qui peuvent être ajustables pour contrôler de la polymérisation à l'intérieur de la porosité. En particulier, jouer sur les distributions de masse moléculaire, sur la stéréorégularité et également sur la séquence monomérique. Donc, parmi tous ces exemples, j'en ai choisi deux. Le premier, c'est juste pour vous rappeler le type de structure sur lesquelles travaille, en particulier pour ces exemples-là, l'équipe de Kitagawa. Donc, ce sont les fameux matériaux hybrides poreux que je vous ai montrés au départ, hein, donc avec des cavités bien bien définies, avec donc des ligands terephthalates ici, qui connectent des cuivres ou des zincs, et puis également des ligands diamine, vous voyez, qui assurent en fait la connectivité en trois dimensions. Alors, donc ça, c'est un dessin simplifié. Donc, vous voyez, a priori, il y a cette cavité-là, il y a l'accessibilité, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Hein. Et donc, c'est dans ce genre de système que l'équipe de Kitagawa fait ses études sur les polymères. Et en particulier, premier résultat qui m'a paru intéressant, c'est que les études de polymérisation radicalaire de systèmes type polystyrène ou acétate de polyvinyle se comportent, en fait, une fois qu'ils sont confinés, comme des systèmes qui seraient contrôlés par de la polymérisation vivante, par de la TRP. Alors qu'a priori, il n'y a pas d'espèce dormante, il n'y a pas de catalyseur. Et en fait, le confinement permet finalement de stabiliser dans le temps les radicaux qui, au lieu donc d'être trop réactifs et de donner des liaisons de terminaison et de couplage, ont un temps de vie plus long, ce qui permet finalement d'augmenter finalement la qualité des matériaux. Hein ? Alors donc ça, ça a été fait, vous voyez, sur des systèmes à base de styrène, qui en général, dans ce cas-là, dans le cas du styrène, il y a des distributions de taille des polymères, mais il y a quand même une certaine résonance, donc le caractère résonant peut stabiliser un peu le radical, alors que là, il y a très très peu de chance. Hein ? Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est la distribution en fait en masse. Le rapport entre la masse molaire en poids et en nombre, donc qui vous donne en fait la polydispersité du système, ça c'est la synthèse en masse, et ça c'est le polystyrène confiné. Ça c'est pour les systèmes non stabilisés du type acétate de vinyle polymérisé, ça c'est ce qu'on obtient, donc des distributions très très larges, et là, on arrive à recentrer, et en jouant sur l'espace, sur la cavité, les meilleures valeurs que j'ai pu trouver, c'est aux alentours de 1,5, ce qui est pas mal du tout, ce qui est relativement, j'irais même très très bien. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est de se dire maintenant on va orienter, être plus sélectif dans les processus de polymérisation. Et donc là, il y a un très joli exemple de la même équipe où ils ont étudié dans les mêmes types de matériaux avec comme métal le cuivre ou le zinc. Il y a des subtilités, je vais revenir dessus. La polymérisation du divinylbenzène, soit le para, soit le bêta. Alors première chose, c'est que à partir du moment où le polydivinylbenzène est adsorbé finalement dans le système au zinc, il y a une adaptation, c'est un réseau flexible, il s'adapte finalement à la taille du ligand qu'il reçoit. Et ça permet d'adsorber finalement des quantités assez importantes de para ou de méta. Et donc, mais ça, en fait, le système, c'est comme un petit peu un costume un peu sur mesure qui est en train de se faire. Et donc, la molécule est totalement encagée et elle a une concentration suffisante pour pouvoir réactive, pour pouvoir réagir. Et donc, ça permet d'obtenir des polymères, je dirais, vous voyez, parfaitement séquencés avec une seule réaction d'un des côtés, que ce soit pour le para ou pour le méta. Par contre, si on utilise la même structure avec non plus du zinc mais du cuivre, qui a, bon, pour des raisons énergétiques, est plus une structure plus rigide, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'adaptation au ligand. On va jouer sur de l'adsorption avec des petites quantités, et globalement, le résultat, c'est zéro, pas de polymérisation. Si on se dit, bon, on va donner un peu plus d'espace au système, on joue sur la nature du ligand, on prend un système à deux cycles, et bien là, on a donné de l'espace, c'est vrai. Pas énormément, quand même, hein, on joue quand même autour du nanomètre, hein, tout ça. C'est un jeu autour du nanomètre. Et bien là, on obtient des résultats avec de la polymérisation analogue à une polymérisation en masse avec beaucoup de réticulation. Évidemment, bon, tout ça, c'est sur une base de résonance magnétique nucléaire et de chromato, parce que l'intérêt de ces systèmes, c'est qu'une fois que vous avez fait la polymérisation, il faut analyser le polymère. Mais vous êtes dans la chimie de coordination. Ça veut dire que vous êtes dans une chimie compétitive pour les ligands. Donc, vous faites votre polymérisation. Et ensuite, vous rajoutez un complexe amphore, les DTA. Et à ce moment-là, vous nettoyez, vous complexez finalement les cations et vous libérez le polymère et vous pouvez faire toutes les analyses de la façon la plus correcte sur la partie polymérique. Alors, d'autres exemples de l'équipe de Kitagawa, cette fois-ci, si mon réseau microporeux il est porteur donc, d'informations, de métaux qui peuvent subir facilement des réactions d'oxydoréduction, par des réactions d'échange, je vais pouvoir intercaler du pyrrole et donc faire une polymérisation oxydative en utilisant en fait, le fer-3 en fait, comme catalyseur. Et donc le fer-3 va se transformer en fer-2 et je vais obtenir des polypyrroles, parfaitement ou relativement lamellaires, intercalés dans des réseaux de microporeux. Mais à nouveau, je dirais, cette partie-là, je peux la gommer, l'effacer en rajoutant du complexant. Et ce qui est intéressant, je suis désolé, on ne voit pas sur la vue là, en fait, on obtient des plaquettes de polypyrrole avec des conductivités qui ne sont pas élevées parce que le dopage n'a pas été optimisé, mais qui montre en fait une anisotropie très marquée entre une mesure électrique perpendiculairement à la plaquette ou dans le sens de la plaquette. Donc ça, ce sont encore des exemples sur le travail de Kitagawa et les polymères. Eh bien, on va pouvoir jouer, en gardant des structures à peu près analogues, vous voyez, bon, là, on va jouer sur des systèmes carboxylates porteurs d'amine, mais à nouveau avec du cation, des structures en couches, et puis on a besoin de piliers pour faire le réseau 3D, et bien, à nouveau, bon, on va utiliser des systèmes diazotés. Donc, au niveau concept, c'est la même chose, je dirais. Alors, ces systèmes-là, ils ont été utilisés parce que là, il y a une grosse modification, c'est dans la fonctionnalité, finalement, des ligandes, eh bien, on va pouvoir introduire des fonctions qui vont être basiques. Et donc, on va pouvoir, donc, grâce à ça, se servir du mur comme d'un catalyseur. Et ça, c'est ce qu'il a fait, vous voyez, dans ces polymères de coordination à base de cuivre. En particulier, il a réussi à faire de la polymérisation d'acétylénique à 20 degrés. À condition, évidemment, d'avoir un acétylénique avec un groupement électro-attracteur, R, qui puisse en fait labelliser un peu cette liaison CH. Donc, elle, en interaction avec la basicité du mur, eh bien, ça permet de faire ce cation ilu réactif qui va pouvoir donner lieu à la polymérisation. Donc, cette fois-ci, le mur va jouer un rôle catalytique. Et donc, justement, en regardant un petit peu la bibliographie dans son ensemble, j'ai quand même été étonné, les microporeux, sous toutes leurs appellations, PCP, MIL, MOF ou autres, eh bien, il y a déjà énormément de travail qui a été fait en catalyse pour des réactions, vous voyez, assez classiques, hein, de scannylation, des réactions de condensation de type Coven-Hagel. Donc là, je ne vais pas vous énumérer, en fait, vous faire une liste à l'après-vert, mais globalement, vous avez déjà énormément de travail qui a été fait dans tout ce qui est catalyse. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que cette catalyse, bon, elle va être confinée dans des micropores, mais également, il faut toujours garder en tête que, eh bien, on a une souplesse énorme au niveau chimique sur le choix du métal et le choix du ligand. Hein. Donc, un seul exemple concernant la catalyse, hein, c'est la catalyse dans des hybrides poreux qui ont été utilisés, vous voyez, pour la catalyse du méthane pour former de l'acide acétique, donc de l'oxydation du méthane. Donc, le système qui est utilisé, c'est un microporeux assez simple, à nouveau, fait à partir d'un dicarboxylate et d'un sel de vanadium pour former ces cages microporeuses. Hein. Donc, ça, c'est un 1047. Donc, c'est à nouveau des structures... avec des triplets d'octaèdres, hein, ce ne sont pas les triplets circulaires, ce sont les triplets linéaires, avec du vanadium. Et donc ça donne, en fait, vous voyez, une réaction avec une sélectivité de 100%, avec des turnover numbers qui sont, j'irais, corrects, j'irais pas exceptionnels, mais raisonnables, et puis avec du recyclage. Alors maintenant, ben, augmenter la sélectivité, ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement, à taille de cage égale, jouer éventuellement sur la chimie du ligand, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc si on utilise un système fortement hydrophobe, on va l'appeler différemment, mais à l'arrivée, je dirais que c'est le même matériau au niveau conceptuel pour moi, eh bien, avec un système totalement hydrophobe, eh bien, on peut obtenir à nouveau des systèmes très sélectifs et on peut augmenter en particulier la qualité, je dirais, la qualité du catalyseur. Alors, au niveau catalyse, beaucoup de travaux. Quand on regarde d'une façon plus générale le domaine des MOF, eh bien, on trouve en fait des tas d'études sur les aspects poreux, je vous en ai parlé, le biomédical, des débuts sur les transitions des spins et le magnétisme, ça y est. La conductivité, les propriétés optiques, tout ce qui est chiralité également. Donc, il y a énormément de travaux qui concernent en fait ce domaine, je dirais, qui n'est pas un domaine émergent à proprement dit, puisque les polymères de coordination, si on s'arrête à cela, c'est, je vous l'ai dit, je dirais, les années 70-80, mais où il y a eu vraiment un changement de point de vue total en passant à ces systèmes de porosité contrôlée que l'on appelle MIL, MOF ou PCP. Alors, il est clair que derrière tout ça, on parle d'application. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment d'application au sens développement d'un produit appliqué, mais il y a clairement un intérêt industriel. Ça veut dire que les industriels y songent. Enfin, Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des systèmes qui sont développés par BASF. Ça, ce sont des poudres de certains MOF, en particulier le 1053, avec une production de 500 kg par jour. Vous pouvez acheter en fait des matériaux qui sont des microporeux divers, en fait, de différentes équipes, enfin les plus stables, je dirais. Enfin, BASF s'intéresse aux plus stables, qui sont vendus sous le nom de basolite. Ça, ça existe commercialement. C'est encore un petit peu coûteux, mais ça existe. Vous trouvez également des productions de nanocubes au niveau industriel. Donc, les industriels sont déjà dans la réflexion de l'utilisation, finalement, de poudre de taille contrôlée. Et puis, j'ai trouvé plus récemment, vous voyez, des barreaux de MOF faits par des techniques d'extrusion. Et vous voyez la taille. Donc, ça veut dire qu'il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on sent qu'il va y avoir quelque chose au niveau des applications, puisque les gros industriels se préparent. Mais ce qui je trouve le plus intéressant dans ce genre de thématique, c'est tout l'aspect conceptuel et chimie, où on sent bien qu'on peut réaliser une chimie sur mesure en connaissant bien la chimie de coordination. Évidemment, il y a toujours l'essai et l'erreur. Je dirais, il faut être modeste. Mais il y a quand même déjà une bonne connaissance et un certain contrôle des systèmes. Donc, sans être prédictif à coup sûr, on peut aiguiller finalement les systèmes de synthèse pour optimiser un système un petit peu, je dirais, sur mesure. Alors, justement, je vais vous présenter finalement le conférencier suivant, qui est le professeur Talal Mallah. Je connais Talal Mallah depuis un bon moment. Hein. Donc, je dirais que c'est un spécialiste donc, à la fois de la chimie d'une façon générale, avec peut-être une préférence pour la chimie de coordination. Et il s'est toujours intéressé, depuis que je le connais, à tout ce qui est interaction magnétique dans les systèmes, interaction magnétique, depuis quelque temps également, au couplage optique et magnétique. Hein, et donc, en fait, actuellement, il est professeur à l'Université d'Orsay. Hein, donc, je l'ai connu lorsqu'il était déjà sur Paris 6 à l'époque. Hein. Donc, aujourd'hui, il dirige le laboratoire de chimie inorganique d'Orsay, donc de Paris 11, et donc il a également des responsabilités, comme tous les enseignants, il a des responsabilités d'enseignement qui lui prennent aussi une partie de son temps de recherche. Hein. Donc il est dans un labex sur Nano-Saclay. Et donc ses activités de recherche, bon, bah, il vous en parlera mieux que moi, mais je dirais qu'une très bonne connaissance de la chimie de base, parce que je pense que c'est ça qui est le point important, avec en fait une... un penchant, je dirais, pour les études magnétiques, hein, et en plus un penchant vers les études magnétiques avec un bon contrôle des systèmes et vraiment essayer d'établir de plus en plus des relations structure-propriété sur mesure. Voilà, en ce qui me concerne, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions... Sinon, on a quelques minutes de pause et puis Talal Mallah va démarrer dans quelques minutes. Donc, vous allez avoir le versant plus magnétique avec Talal. Et d'après ce que j'ai discuté avec lui, il va présenter un peu le chemin de réflexion qu'a le chimiste pour aller trouver et optimiser finalement le système avec la propriété qui est choisie. Et forcément, on est tous... pratiquement beaucoup de chimie dans la salle, c'est forcément un chemin chaotique d'aller, de retour, de réflexion, et c'est là qu'on apprend, et c'est là que la passion démarre.